L'histoire des militants et des militantes en situation de handicap est plutôt méconnue. C'est pour ça, chers auditeurs et auditrices, qu'on vous demande vos suggestions. Continuez d'aller sur canalm.vusezvoix.com pour nous présenter ces activistes, pour nous suggérer des personnes qui ont fait notre petite et grande histoire des droits des personnes en situation de handicap. Dans cet esprit, on vous présente aujourd'hui un film nécessaire. En effet, le 1er mars sera lancé le documentaire Rare qui retrace le mouvement de défense des droits des personnes en situation de handicap par la parole aussi, hein, de 15 personnes qui ont travaillé. Donc, le titre « Continuer » ou plutôt « Continuons à aller plus loin ensemble » qui a été produit par le mouvement Phase en collaboration avec Funambule Média. J'aimerais qu'on entende quelques instants ce film, ou en fait un extrait de ce film qu'on pourra voir, entendre, tout dépendant de notre mode préféré, le 1er mars prochain.
L'inclusion, c'est un beau terme, c'est une chose auquel je rêve, mais que je suis pas sûr qu'on est rendu là tant que ça.
Dans les années 70-80, je pense qu'on avait aussi des décideurs qui tenaient un discours qui était favorable à l'intégration.
Que c'était la première fois qu'on voyait des personnes handicapées tenir des pancartes, manifester, crier, revendiquer.
Non, j'aime pas comme voir comme une personne vulnérable faisant partie d'un groupe vulnérable, mais il y a des services qui doivent être fournis.
Vous avez entendu la toute dernière intervenante, c'est Marie-Andrée Boivin, militante dans la communauté sourde et cinéaste. Bonjour Marie-Andrée Boivin.
Bonjour.
Bonjour, très content que vous soyez avec nous. Rappelons que vous êtes en présence d'une interprète oraliste.
Oui.
C'est important, on ne sait pas toujours la différence. C'est quoi d'ailleurs la différence entre un interprète oraliste et LSQ?
En fait, un interprète oraliste, c'est qu'il va faire de la translittération. Il va prendre le message qui est en français dans n'importe quelle autre langue, il va le transmettre dans cette même langue-là, mm-hmm. et de façon visible. Alors qu'un interprète oraliste va écouter en français, il va traduire. Il va vraiment faire une traduction en langue des signes.
Et c'est une langue, en fait. La LSQ est une langue, oui. alors que vous parlez un français plus audible.
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ma première langue. Je réfléchis en français, donc je préfère qu'on garde le français. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend les propos moins visibles, mais de manière visible, tout simplement.
Bien. Oui. Marie-Andrée Boivin, vous êtes aussi avec Mathieu Franqueur. Vous avez participé comme intervenante au film « Continuons à aller plus loin ensemble ». Mathieu Franqueur, coordonnateur du mouvement Phase, bonjour. Alors, il semble que c'est le mouvement Phase qui a lancé cette histoire, pas cette histoire des droits des personnes en situation de handicap, mais ce film à faire qui va paraître le 1er mars.
Oui, bien on a récupéré, hein, on est toujours bon là-dedans dans le milieu communautaire pour reprendre ce qui a été fait avant.
C'est ça.
En réfléchissant avec Olivier Martin, mon ancien collègue au mouvement Phase, on s'est rendu compte que le milieu était très peu documenté.
Ouais.
L'histoire, mais même le milieu actuel, dans les dernières années, au niveau des luttes, des mobilisations et des enjeux, c'était documenté. Bon, on a fait une grosse recherche, on a trouvé quelques articles scientifiques, quelques capsules vidéo, quelques chapitres dans des livres plus gros sur les luttes des minorités, entre guillemets. Mais il n'y avait rien vraiment qui couvrait plus l'ensemble de l'histoire.
Et même l'histoire québécoise.
Québécoise, oui, parce qu'il y en a qui ont plus été faits aux États-Unis ou en Europe. Et au Québec, le dernier long métrage documentaire qu'on a trouvé, c'était La Grande Sortie, produit en 1985.
Ah oui.
Donc, qui parlait beaucoup de désince à l'époque, évidemment.
Désinstitutionnalisation, rappelons que c'est sortir des institutions.
Oui, autant en déficience physique qu'intellectuelle.
Ouais.
Même s'il y a eu de la désince qui a continué plus tard. Donc, on avait 30 ans qui étaient plus ou moins couverts avec une perspective, disons, historique et politique, je dirais. Donc, on s'est dit, on va faire une demande de subvention en accent sur le fait que c'est très peu documenté comme milieu, et ça a marché. Et là, on s'est dit, bon, tout est à nous, mais c'est large, large, large. On peut aller partout, il y a toutes les déficiences, toutes les époques, les groupes communautaires,
vous aviez le champ
les
libre.
Parents. On avait le champ libre, mais il fallait trouver quelque chose de cohérent là-dedans.
Marie-Andrée Boivin, qui est aussi cinéaste, est-ce que vous aviez déjà croisé un film vu un film qui parlait de ce mouvement des personnes en situation de handicap?
Je pense que c'est l'un des premiers qui est fait au Québec, vraiment. Mais ça me fait penser qu'il y a des séries documentaires en Europe, en France, en Irlande, en Grande-Bretagne, où les personnes sourdes font des émissions sur leur propre réalité, pas que sur la surdité, mais sur différents sujets, comment ces sujets-là les interrogent. Donc c'est à langue des signes, c'est grand public accessible. Je me suis en train de me dire que c'est pas tant des émissions sur la militance, mais c'est un mouvement militant que de se mettre en scène médiatiquement pour parler des enjeux qui nous touchent.
Oui. Ouais, vous parlez souvent de mise en scène médiatique parce que vous travaillez beaucoup les communications mm-hmm. dans la vie. En parlant de visibilité, vous ne trouvez pas que les personnes sourdes arrivent un peu tard dans le mouvement, n'ont pas beaucoup de visibilité? Si on regarde là, les 50 dernières années, c'est dans la dernière portion un peu de ces 50 ans-là où on retrouve des activistes sourds.
Mais c'est une très bonne question. Je pense que c'est aussi à la mesure du handicap. Il y a des gens... Bon, je vais faire attention au débat parce que c'est un immense débat. Je ne vais pas me faire lancer des tomates.
Non, mais il y a plusieurs idées qui circulent. C'est normal, c'est normal. Oui.
Oui, c'est vrai, en effet, merci. Oui. mais c'est dans le fond, c'est à la mesure du handicap, dans le sens où c'est un handicap invisible, mais c'est aussi un handicap qui touche à la communication. Donc, mm-hmm. les personnes sourdes sont très, très isolées. Il y a beaucoup de sourds qui ont, comme la première, la langue des signes, qui ont du mal à lire. Mm-hmm. Donc, pour eux, la télévision, les médias, avec le sous-titrage, simplement, c'est pas accessible mm-hmm. ou c'est difficilement accessible. C'est pas une lecture qui est confortable, ils peuvent le faire, mais... C'est comme aller lire la sous-titrage d'une émission en allemand.
Ouais.
Voyons, un peu. Je pourrais être un peu germanophone, mais pas tout à fait. J'ai trouvé ça tannant. Mais c'est ça la réalité. Puis les gens qui ont du mal à rire, mais ils peuvent écouter les nouvelles, comprendre quand même, mais les sourds, pour eux, non. Mm-hmm. Donc j'ai l'impression que c'est un peu pour ça le retard médiatique.
Dans le film et dans l'extrait qu'on a entendu, vous dites que vous êtes tanné qu'on vous prenne pour une personne vulnérable. Est-ce que... Vous êtes toute seule à penser ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, d'ailleurs?
Mais j'ai écouté le film après avoir dit ça. J'ai fait,
c'était hors contexte?
Non, pas du tout,
ils ont été honnêtes.
Oui,
mais je pense que c'est... Je me disais que je parlais vraiment de vulnérabilité, de capacité.
Oui.
Je pense que c'est ça que quand on m'a demandé est-ce que tu te considères comme une personne vulnérable, je me suis dit, mais non, j'ai toutes mes capacités.
Ouais.
Mais c'est vrai que parfois, le contexte peut être... vulnérabilisation.
Ouais.
Veut, par exemple, pour la recherche d'emploi, on a beaucoup de compétences, mais est-ce qu'on va être reconnu à notre juste valeur? Je ne suis pas certaine. Ou par exemple, il n'y a pas longtemps, je pensais à ça pour les recherches d'emploi ou pour l'accès au marché du travail de manière générale. C'est bon quand une personne sourde a un emploi, mais est-ce qu'on pense après à sa santé mentale
ouais.
dans le milieu d'emploi? Est-ce que les autres employés vont s'adapter à ces besoins communicationnels?
Mm-hmm.
Est-ce que
ça... Parce qu'il y a un changement de culture obligé. C'est que c'est pas seulement une personne qui entre dans un milieu, c'est un milieu qui doit changer pour qu'elle soit du milieu.
Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est par exemple, est-ce qu'on va considérer la personne sourde comme une personne compétente pour répondre aux questions qu'on mm-hmm. va se poser dans le milieu professionnel? Souvent, on va faire, c'est pas grave, on va arranger entre nous, puis on va l'attasser, on lui enverra pas les courriels. Ou... Mm-hmm. Mais c'est, est-ce qu'après, c'est un sentiment de désarroi qui peut s'installer?
En tout cas, une chose est sûre, dans le film qu'on n'a pas encore vu, mais dont on a quelques échos, on présente la force que le mouvement a pu avoir. Puis on pose les questions sur sa force dans l'avenir. Et en passant, ça ne veut pas dire que vous êtes vulnérable. Hein? Ça, c'est un article de loi dans la Charte des droits et libertés. C'est une manière de parler que ça prend une protection différente. Là.
Ben, il y a un segment juste là-dessus dans le film la vulnérabilité. Et on voit les différences selon les déficiences.
Ah oui.
Physique, sensorielle, etc. Intellectuelle, autiste. Il y a vraiment des réponses différentes. Ça va être intéressant.
On parle un peu plus longuement du film et de son histoire dans quelques instants.
Sur la semelle de mes bottes, quand elles se frottent au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, aux reflets verts de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Toutes les victoires, quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout.
Question de la semaine. Connaissez-vous des activistes en situation de handicap célèbres? Qui sont les personnes qui devraient figurer au tableau d'honneur, selon vous?
Et répondez à la question, mais aussi, soyez du rendez-vous le 1er mars pour ce film qui nous permet de regarder le mouvement des personnes en situation de handicap, plutôt le mouvement de la défense de droits des personnes en situation de handicap, qui a pour titre « Continuons à aller plus loin ensemble ». On est aussi avec Mathieu Francaire, qui est coordonnateur du mouvement Phase, qui a initié le projet.
Oui.
On le sait bien. Il y a quand même quelque chose comme 50 ans, voire plus, à couvrir. C'est costaud.
C'était ambitieux, tout à fait. C'est pour ça qu'on est allé chercher beaucoup de monde, une quinzaine de personnes, oui, pour les entrevues.
Quinzaine de protagonistes qui venaient de quel milieu, quel âge, de qui on parle?
Ben, on voulait vraiment avoir des gens qui ont fait le mouvement depuis les débuts, des gens qui sont donc à la retraite maintenant, qui ont travaillé dans le mouvement, qui ont été militants ou militantes très longtemps, et aussi des gens actuels dans la trentaine, quarantaine.
Comme Marie-André.
Comme Marie-André, par exemple, comme Laurence Parent, ou les gens du mouvement Personne d'abord à Québec, qui sont vraiment dans l'action actuellement, puis qui redéfinissent le mouvement, puis qui sont un peu à la croisée des chemins au niveau de la mobilisation, on est rendu où, qu'est-ce qu'on fait, le mouvement communautaire, est-ce qu'il est toujours aussi pertinent, est-ce qu'il va toujours dans la bonne direction, est-ce que les enjeux que nous défendons sont écoutés dans la société, bon, tu sais, c'est
ça, c'est des questions très actuelles, mais vous faites quand même un long tour depuis même avant ce mouvement de défense de droit, là, avant la reconnaissance même des droits civils dans les années 60.
Avant les chartes des droits, par exemple, au Québec et au Canada, c'est parce que l'idée, c'est que on n'a pas de date exacte quand le mouvement de défense de droits des personnes en situation de handicap a commencé, parce que, bon, il y a différentes...
Ben, différentes versions.
C'est différentes versions selon les milieux et selon les déficiences. Oui.
Selon le PHQ et le mouvement.
C'est ça,
voilà.
Exactement. C'est mal documenté aussi. Mais on peut se situer dans les années 70, surtout, autour des premières lois qu'il y a eu autant par les libéraux de Bourassa que le Parti québécois de l'Évêque.
Parce que rappelons que la Charte des droits, d'abord, c'est le gouvernement de Robert Bourassa, mais c'est les péquistes qui ont fait ajouter le motif du handicap en 78.
Oui, exactement. Exactement. Ouais. Et c'est avant la Charte canadienne des droits qui a eu au début des années 80.
Ouais. Et qui était un peu forte. Elle est très forte, cette charte-là, dans son application.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'au début, le handicap n'était pas là comme motif de discrimination, tout à fait. Et il y a eu une première loi des libéraux qui s'appelait la loi de protection des personnes handicapées en 75. Et le PQ a fait finalement la fameuse loi sur l'exercice des droits qui était plus... plus démocratique et plus égalitaire.
Large,
mais ça pour dire que le mouvement s'est un peu formé pour demander ça et ensuite, à partir de ça, pour faire des demandes beaucoup plus larges, d'avoir des services, d'avoir l'égalité.
Et là, on voit tout. Moi, je me rappelle de Pierre-Yves Lévesque, pour ne pas le nommer, qui est dans le film, qui disait « c'est l'autonomie qu'on a demandé en premier.
Oui.
C'est la première chose, la première revendication. » Est-ce que ça appelait des instruments juridiques? Qu'est-ce que ça voulait dire, ça?
Bien, on s'est attardé surtout aux mobilisations et aux luttes, oui, au contenu, aux côtés des lois. Quand même, on voulait en parler, c'est beaucoup Pierre-Yves Lévesque et Jean Lepage dans le documentaire qui en parle. Jean Lepage qui a été un des fondateurs de nous intégrons ensemble, nous intégrons en commun, qui est devenu Execo, entre autres. Mm-hmm. Donc, il parle plus du côté de ces luttes-là, plus juridiques. Il y a eu des sommets socio-économiques aussi avec les personnes handicapées. Il y a eu toutes sortes de comités, de consultations. Mais ce qu'on voulait voir, nous, c'est beaucoup qui s'impliquait, comment, puis comment ils réussissaient à mobiliser et aller chercher des gains aussi. Au niveau des lois, oui, mais au niveau des programmes, services, évidemment, beaucoup.
Ça, c'est
aussi
pas mal les années 80. Là. Je fais un grand tour. Là.
Tout à fait.
Mais on commence à obtenir vraiment gain de cause comme mouvement dans les années 80, même un peu 90.
80, c'est beaucoup en déficience physique et 90, c'est en déficience intellectuelle et autiste. Il y a vraiment un décalage de 10 ans, je dirais, de mon point de vue.
Les personnes sourdes, elles, arrivent dans le
sourdes, il faudrait peut-être demander à Marie-André, parce qu'elle en parle un peu dans le document.
Oui, Marie-André, donc les personnes sourdes, on parle des années 80 beaucoup pour la reconnaissance des droits des personnes qui ont une déficience motrice. Puis les personnes sourdes arrivent quand? Revendiquent quand?
Mais si je me souviens bien, je pense que dans les années 80, il y a eu un grand mouvement de reconnaissance pour la langue des signes, de dire que c'était une langue, des recherches qui ont été faites à ce moment-là pour dire que
beaucoup
oui, c'était
États-Unis.
Une langue. Parce que oui, mais au Québec aussi, on pensait que c'était un langage, que c'était informe comme façon de communiquer, alors que non, c'est une langue. Puis, donc, ça a été un mouvement très fort de reconnaître ça. Puis aussi, mais après, il y a eu l'implant cochléaire qui est arrivé dans les années 90. Puis, mais ça a été un mouvement contre l'implant cochléaire, alors que les malades ordinaires, pour eux, c'était un mouvement pour leur droit, donc avoir accès à des appareillages, à l'implant.
Ça, d'ailleurs, je dirais pas une division, mais une particularité du mouvement sourd. C'est que d'un côté, on parle de la reconnaissance de la langue, de la culture, puis de l'autre, on parle de la possibilité d'éliminer un peu la surdité de sa vie. En tout cas, j'exagère quand je dis ça.
Non, mais je suis contente que tu le dises, parce que tantôt, je me sentais mal dans ce que j'avais dit, parce que j'avais pas parlé des deux cas. Le moins fort, mais quand même, les deux écoles de pensée en surdité, c'est pas un monde unique avec qu'une vision, plusieurs visions. Il y a quand même des conflits qui se créent, des tirages de couverture, logiquement.
Puis le temps fort dans le mouvement de défense de droits des personnes en situation de handicap pour les personnes sourdes, c'est les années 80, mais est-ce que, comme mouvement, mais au niveau législatif, est-ce que ça s'améliore? Est-ce que le gouvernement répond des années 80?
C'est comme, il y a des choses un peu absurdes, comme par exemple en Ontario, la langue des signes québécoise est reconnue comme langue officielle dans la province de l'Ontario, alors qu'au Québec, non. Et puis je pense que ça fait des années, même encore maintenant, qu'elle est sur le RECAM.
Mais le travail n'est pas terminé.
Ah non, vraiment,
c'est ce que ça
pas,
veut
on
dire.
Est loin.
Donc, on arrive aux années 90, il y a encore des gains. Année 2000, on se demande si tout n'arrête pas.
Ben, c'est un peu à l'image de l'ensemble du mouvement de défense des droits dans plusieurs secteurs, du mouvement communautaire, je dirais, en tant que tel. C'est-à-dire que c'est vraiment le néolibéralisme qui a commencé dans les années 80, mais là, qui est vraiment rendu à une phase, tu sais, fin des années 90, c'est déficit zéro, ces approches-là.
Et 98, là, on coupe des infirmières.
Exactement, sommet socio-économique, les libéraux après l'austérité, et on se rend compte que les programmes services, particulièrement en santé, services sociaux, mais aussi en transport, en emploi ou ailleurs, tout ce qui est intégration, tout ce qui est pas vital, disons, pour faire fonctionner l'État là, et donner des services minimums, est de plus en plus coupé. C'est des compressions. Et c'est aussi le fait que finalement, on se retrouve à ce que les groupes aussi, le côté militant, c'est qui était quand même typique d'un début de mouvement et de sa maturité, de 70, 80, 90, commence à s'étioler. Et ça, on peut l'observer dans n'importe
quel
mouvement des femmes un peu partout, sûr, évidemment. Mais en défense de droits en général aussi. Mais ce qui fait que les années 2000, il se passe encore des choses, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Par exemple, au niveau de l'accessibilité universelle, il y a quand même des acquis encore, parce qu'on est très loin. Mais disons, dans les trucs de base, comme la santé, les services sociaux, l'éducation, là, on est en recul.
Et travail
aussi, intégration au travail, évidemment, puis on en parle dans le documentaire. Jérôme Di Giovanni en parle pas mal, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment cette faiblesse-là qui mène aux années 2010 maintenant, où c'est un peu la suite des années 2000. Mais là, il y a quand même une prise de conscience dans le milieu des personnes en situation de handicap, mais l'ensemble du milieu communautaire qu'il faut vraiment se remettre au
travail. La chute de votre film que vous avez fait là, avec beaucoup de gens, là, je ne dis pas que c'est votre film, Mathieu Francaire, parce que je sens que c'est le film du mouvement, beaucoup.
Oui, tout le monde n'est pas là, évidemment. On essaie de couvrir le plus de déficiences. Il y a des gens qui n'ont pas voulu participer au film pour toutes sortes de raisons, qui n'ont pas pu. On aurait pu avoir plus de gens, puis on a fait vraiment des choix difficiles, parce que quand on a 40 ans d'histoire, On aurait pu faire un film par, par type de déficience,
un film par décennie. Voilà, voilà.
Tu sais, un film avec quasiment... Il y a des gens qui ont donné 2 ans d'entrevue, on aurait pu tout garder.
Là. La question qui tue, parce qu'on en traite, c'est sûr, on en traite dans le film, le PHQ, qui était au départ très investi dans les années 80, au moment de sa création,
ouais,
par les militants militantes, et aujourd'hui très institutionnalisé. Est-ce que les gens se posent la question de l'OPHQ dans le film? Parce qu'on se pose la question s'ils peuvent soutenir là, les nouvelles avancées aujourd'hui, puis on dirait que non.
Bien, l'OPHQ, son rôle, comme tu dis, a beaucoup changé. Oui. C'est sûr, on pose la question directement dans le film parce que c'est vraiment un élément important quand, ouais, on fait l'historique des lois. C'est l'OPHQ est issu d'une loi, mm-hmm, a vraiment été là pour... Bien, il faut dire que son rôle a beaucoup changé. Au début, il donnait des
subventions.
Mais
d'ailleurs, il faudrait dire aux gens qui nous écoutent, c'est pas tout le
l'Office des protections. Voilà. L'Office des protections... L'Office des personnes handicapées du Québec,
voilà,
qui est une... un peu comme la SHQ, qui est une société publique,
ouais,
qui au début donnait des budgets aux groupes, donnait des budgets, mais maintenant, c'est les ministères, ça a été transféré dans les années 90.
Mm-hmm.
Et maintenant, c'est beaucoup un rôle de conseil, de surveillance, mais avec aucun pouvoir décisionnel ou pouvoir...
coercitif,
tout à fait.
La question, de la loi plus musclée, là, comme on en entend parler un peu depuis quelques années, on s'attend à en avoir une au niveau fédéral, est-ce qu'on en parle dans le film?
Oui, on en parle parce qu'il y a des groupes qui travaillent, particulièrement des plus jeunes actuellement, qui travaillent, ouais, là-dessus.
Est-ce que c'est un enjeu de jeunes?
Je te dirais que je ne sais pas si c'est un enjeu de jeunes, mais c'est les jeunes qui le reprennent.
Uh-huh.
On dirait que les personnes qui sont là depuis longtemps dans le milieu savent que la loi manque de mordant, savent, mm, qu'elle est un peu désuète, mais ils ont comme... C'est pas là-dessus qu'ils ont continué à militer. Fait que c'est vraiment les jeunes qui disent, ils comparent ce qui se passe aux États-Unis, dans certains pays européens, puis ils disent, voyons.
Et même dans au moins 2 provinces du Canada.
Exactement, dans, ouais, l'Ontario. Donc, vraiment, qui voient qu'il y a un problème, mm-hmm, que n'importe qui peut faire n'importe quoi puis s'en sauver.
Mm-hmm.
Et que même dans les lois, dans les autres lois, dans les règlements, c'est pas là.
Donc, ce lancement s'inscrit dans la foulée d'une campagne de mobilisation que vous tenez, Mouvement Phase, que vous aidez à, disons, déployer entre mars et juin. Ça ressemble pas mal à une période préélectorale, ça, un petit peu.
Oui, oui, on pourrait dire la pré-préélectorale.
La pré-préélectorale.
L'été, c'est le pré, mais...
Et c'est important de le dire avant cette période-là, c'est le jeudi 1er mars 2018, au Centre Saint-Pierre, que sera présenté pour la première fois le film. Rappelons le titre, Mathieu Francoeur.
Continuons à aller plus loin ensemble, qui vient d'un proverbe assez connu dans le milieu, ou d'une maxime. Là,
ouais.
Seul, on peut aller plus vite, mais ensemble on peut aller plus loin.
Ouais.
Et je dois dire que c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde.
Mm-hmm.
On peut, idéalement, les gens s'inscrivent sur le site du Mouvement Phase, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est une, ouais, grande salle au Centre Saint-Pierre. Et on a une discussion après avec les intervenants et intervenantes du film, dont Marie-André.
Mm.
Et ensuite, il va être disponible sur Internet et on va aller le présenter dans les groupes, dans les festivals. On va s'amuser avec, comme outil, oui, d'éducation populaire. Et pour notre campagne qui s'en vient, ça va vraiment nous servir pour la mobilisation.
Et en plus, pour revaloriser l'importance des droits des personnes en situation de handicap et de son mouvement et de son action.
Voilà.
Merci beaucoup, Marie-André Boivin, militante et cinéaste. Merci.
Ça me fait plaisir. Merci à toi.
Mathieu Francoeur, coordonnateur du Mouvement Phase. Merci, Mathieu.
Merci, Benoît.